Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui, chaque semaine sur RFI, vous aide à mieux comprendre l'économie mondiale. Je vais donc tenter de remplacer l'irremplaçable Jean-Pierre Boris, qui, comme vous le savez, a pris une retraite bien méritée et on le salue une nouvelle fois. Vous l'entendez aussi. Nous ne sommes pas dans notre studio habituel pour cette émission qui est enregistrée dans un cadre exceptionnel. Celui de l'hippodrome de Longchamp, tout près de Paris, c'est là que se tenait cette semaine la rencontre des entrepreneurs francophones. Le rendez-vous annuel du patronat français a été élargi cette année à de très nombreux dirigeants économiques venus notamment d'Afrique. L'objectif, renforcer les échanges économiques et les investissements entre pays francophones et plus particulièrement entre les investisseurs français et les pays du continent africain. Et tout cela dans un contexte bien particulier, puisque les grandes organisations internationales comme le FMI et la Banque mondiale multiplient les initiatives pour desserrer l'étau de la dette. Car c'est bien là l'enjeu, permettre la relance de l'Afrique dans une époque où le monde entier navigue dans le brouillard. La crise sanitaire bouleverse les équilibres, il faut donc innover et innover tous azimuts. Pour en débattre, un plateau prestigieux, trois invités à mes côtés dans le studio installé spécialement par RFI. Serge Ekwe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Vous avez été nommé il y a un an à la tête de cette institution commune à 8 pays de l'UMOA. Bénin, votre pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, dans l'ordre alphabétique. Et vous allez nous dire comment concrètement vous soutenez l'investissement et la relance en Afrique. Avec nous également, Abdoul Aziz Fall, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le conseiller spécial du directeur général de la Sénélec. C'est la Société Nationale d'Électricité du Sénégal. Près de 3000 salariés, c'est ça ?
Exact.
Près de 40 ans d'existence.
Tout à fait.
Et un slogan, l'énergie de tous les possibles. Exactement. Vous nous direz ce que vous attendez de cette relance économique pour l'Afrique et je poserai la même question à Thierry Awesso. Bonjour.
Bonjour Bruno.
PDG de Nyoto Nyoto, la nouvelle industrie des oléagineux du Togo, pays dont vous vice-présidez le Conseil national du patronat. Et enfin, pour m'épauler, Olivier Roger. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous, bonjour Bruno.
Journaliste à RFI, spécialiste de l'économie africaine, comme vous le savez. Et pour lancer la discussion, je voudrais que l'on entende d'abord ces quelques mots de Patrick Achi, le Premier ministre de Côte d'Ivoire. C'était mardi dernier, à l'ouverture de cette rencontre des entrepreneurs francophones ici à l'hippodrome de Longchamp.
L'Afrique n'est plus l'Afrique. L'Afrique a changé. L'Afrique s'urbanise. L'Afrique se forme, entreprend et s'enrichit. L'Afrique se digitalise et s'industrialise. L'Afrique s'affirme et prend conscience de son potentiel immense comme de ses défis extraordinaires. Elle acquiert une fierté commune, celle d'une terre de civilisation qui a faim de conquêtes positives. C'est le dernier continent où des investissements massifs dans les infrastructures, les services publics, les réseaux technologiques et le capital humain vont s'opérer. Ce sera aussi, par la jeunesse de sa population, un foyer précieux de compétences, mais également un réservoir unique de matières premières qui devront demain être mieux intégrées dans les chaînes de valeur mondiales.
Le Premier ministre ivoirien qui appelle de ses voeux une relance des économies africaines dans leur ensemble. Premier tour de table, je commence avec vous Serge Ekwe. Est-ce que tout ça, quand on connaît les immenses besoins en financement, est-ce que tout ça, ça n'est pas un peu la méthode Coué ?
Alors, je veux dire, les propos de Monsieur le Premier ministre, Patrick Achi, sont tellement dans le vrai. Monsieur le Premier ministre a tellement raison. Il est tellement dans l'actualité, il est tellement dans son monde. Et son monde est le mien, son monde est le nôtre, celui de la BOAD que j'ai l'honneur de présider depuis un an, à quelques jours près. Non, ce ne sont pas des vieux peu, c'est une réalité. C'est la réalité d'un monde qui avance, c'est la réalité d'un risque que nous avons vocation à expliquer au marché. Nous croyons beaucoup dans le marché. Nous croyons beaucoup dans la rencontre entre des investisseurs et des émetteurs. Nous croyons beaucoup dans la rencontre entre une offre et une demande qui va déterminer un point d'équilibre qui est le prix. il n'y a rien de plus difficile dans le monde que de valoriser un actif. Et je peux vous dire aujourd'hui que le rôle de la BOAD, en tant que... Alors j'aime bien cette expression, qui est une expression qui peut apparaître un peu complexe, un peu technique, mais quand j'emploie le terme d'interconnecteur, c'est-à-dire que la BOAD a vocation à intermédier un risque entre nos actionnaires, les États, et également les souverains, mais ce sont nos actionnaires, mais ce sont également nos clients, c'est ce qui rend cette relation assez particulière, mais également le marché, le marché des investisseurs. Le marché des investisseurs, c'est un marché qui a les poches profondes. Une ou deux explications très simples.
Très rapidement.
On est dans un monde d'épargne profonde, parce qu'on est dans un monde de population vieillissante. L'Asie épargne plus qu'elle...
Ailleurs qu'en Afrique, vous voulez
exactement,
dire.
Exactement. Donc cette épargne a besoin de quelques critères pour être réorientée chez nous. Elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de critères de rentabilité. Elle a besoin d'un format. Bon, c'est un sujet technique, mais elle a besoin de transparence. Elle a besoin de fléchage, voyez-vous ? Et donc ce sont ces éléments-là que nous apportons à la BOAD au service à la fois du secteur public, mais également du secteur privé. Patrick Hachis, Monsieur le Premier ministre, a complètement raison.
On va revenir sur tout ça. Thierry Aouesso, vous êtes d'accord ? L'Afrique a une carte à jouer, là, maintenant, dans le monde dans lequel on est, avec ces incertitudes mondiales ?
Nous avons la certitude aujourd'hui que le monde de demain se dessine en Afrique. Pour plusieurs raisons. La première, c'est la flambée démographique elle-même. Le monde est vieillissant, l'Afrique est en train de... Elle est en pleine croissance. Et à partir de cet instant, vous avez forcément des marchés qui sont en train de s'ouvrir, des marchés nouveaux. Et les afro-pessimistes disent, oui, il y a beaucoup d'instabilité, il y a ceci, il y a cela. La jeunesse africaine n'est pas concernée par cela. La jeunesse africaine a compris aujourd'hui qu'elle a pris conscience que s'il y a autant d'intérêt à se bousculer en Afrique, c'est bien parce qu'il y a un enjeu. Et en réalité, les guerres qui s'y passent sont les guerres des papas. C'est terminé. Aujourd'hui, dans cette globalisation, vous demandez à n'importe quel jeune en Afrique, il ne se sent pas du tout concerné par ces tensions. Bien évidemment, il y a des problèmes de compétitivité qui naissent. Parce qu'il ne faut pas que l'Afrique soit spectateur ou spectatrice, pardon, de son propre développement. Il y a de la convoitise, il y a de gros groupes qui arrivent, qui s'installent, qui se bousculent. Et nous avons souhaité, nous au niveau de notre secteur privé, au niveau du Togo, que les Togolais eux-mêmes réussissent à prendre davantage part à ce développement. Donc c'est comment continuer par travailler dans le cadre du partenariat public et privé sur les conditions dans lesquelles ce climat des affaires bénéficiera d'abord aux entrepreneurs togolais et que le reste puisse être dans une chaîne complémentaire, bien évidemment. C'est très intéressant de voir la BOAD à nos côtés parce que c'est le maillon, c'est la pierre d'angle. Il faut absolument pouvoir composer avec les banquiers là-dessus.
Abdoulaziz Fall, vu du Sénégal, les guerres des papas, comme disait Thierry Aouesso, c'est terminé. Place à la jeunesse, place à de nouveaux investissements, à de nouvelles idées. Vous le ressentez, vous, chez vous ?
Oui, de manière un peu plus particulière, car au Sénégal, il serait même un petit peu incongru de parler de guerre des papas. On n'a jamais eu de guerre en tant que telle. En revanche, en Afrique, on a toujours quand même été confronté à ce fléau-là. Mais comme il l'a dit, je crois qu'il y a un changement paradigmatique qui s'opère. Et ce n'est pas gratuit. C'était une évolution normale et naturelle, car les jeunes s'ouvrent davantage, comprennent davantage les enjeux, en sont conscients et surtout, ils ont une lecture extrêmement correcte du potentiel dont ils disposent du point de vue naturel, mais également suivant une certaine tendance culturelle. Parce que aussi, ils sont devenus plus exigeants. Si vous voyez que les jeunes sont formés dans les plus grandes universités du monde, ils ne peuvent pas être pareils que leurs parents parce que les systèmes de référence sont différents. Mais ils sont conscients aussi qu'ils doivent réussir là où les parents, comme on dit, les papas avaient échoué. Et il n'y a rien qui puisse se mettre au devant qui leur permettrait de ne pas y arriver. Je ne vois pas la raison pour laquelle les jeunes d'aujourd'hui n'y arriveraient pas. Je n'en trouve pas, j'ai cherché, j'ai beau chercher, je n'en trouve pas. Et je crois que c'est ça le rationnel de fond du discours du Premier ministre ivoirien parce qu'il a eu une excellente lecture de la situation d'aujourd'hui.
Voilà, le décor est planté, les grandes idées sont plantées. On va entrer dans le vif du sujet de la relance économique de l'Afrique. Et pour alimenter ce débat, je voudrais que l'on écoute un dirigeant politique, un autre, en l'occurrence en République démocratique du Congo. Ce pays doit recevoir l'équivalent d'1,5 milliard de dollars de la part du Fonds monétaire international, le FMI, via notamment un mécanisme, les DTS, les droits de tirage spéciaux. Comment la RDC va-t-elle utiliser cet argent ? Olivier Roger, vous avez posé la question au ministre des Finances congolais, Nicolas Kazadi.
Deux pistes se dégagent à l'heure actuelle. D'une part, on voudrait utiliser une partie de cet argent comme levier pour la constitution avec le secteur privé, le grand secteur privé, notamment les grandes entreprises minières, d'un fonds d'investissement pour la diversification de l'économie dans des secteurs comme la grande agriculture, la transformation, l'industrie, l'industrialisation, et d'autre part, des projets de développement classique. Et ce qui se dessine, c'est que nous avons besoin dans notre pays d'une banque ou agence, on appelle ça comme on veut, de développement, car nous sommes un des rares pays qui n'en ont pas.
Et est-ce que les Congolais bénéficieront directement de cette manne ? Est-ce que vous allez prendre des mesures de soutien au pouvoir d'achat, par exemple ?
Écoutez, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'utiliser cet argent pour les dépenses courantes. Ça n'a pas cette vocation-là. Et ce serait une grave erreur parce que ça va être dilapidé sans grand impact. L'objectif, c'est d'utiliser cette manne exceptionnelle pour des choses qu'on n'a pas les moyens de faire en temps normal, qui, elles, vont générer quelque chose de récurrent et de constructif et qui va même se multiplier.
Serge Ekwe, puisque l'on parle de banque de développement, vous allez pouvoir réagir. Olivier Roger a une question pour vous.
Oui, je voulais vous demander, on l'a entendu avec le ministre Kazadi de RDC, une partie de l'argent va servir à stabiliser la monnaie, puisque 750 millions de ces 1,5 milliard de dollars vont servir à renforcer les réserves de change du pays, et l'autre moitié va être consacrée à des investissements qu'il veut productifs. Qu'est-ce que la BOAD attend de cette allocation de DTS du FMI qui va concerner l'ensemble de la planète, mais surtout l'ensemble de l'Afrique et toute la zone qui vous concerne, la zone UMOA? L'ensemble de l'Afrique va recevoir environ 33 milliards de dollars, plus probablement une partie qui sera réallouée par les pays riches. Est-ce que cet argent va se retrouver dans vos caisses? Est-ce qu'elle va vous permettre, vous, de faire avancer des projets d'infrastructure et d'investissement?
Alors, deux choses. Il y a plusieurs phases dans ce mécanisme des droits de tirage spéciaux, qui est d'abord, dans sa définition originelle, un mécanisme monétaire, donc qui doit forcément passer par la Banque centrale, puisque le droit de tirage spécial, c'est une unité de compte. Bien. Donc, vous l'avez rappelé, c'est 33 milliards pour l'Afrique à ce stade, 2,5 milliards, à peu près 2,3 milliards pour notre zone. Bon, tout ceci est acté, tout ceci va entrer dans les comptes, les mécanismes techniques sont en cours de discussion. Je note simplement que l'allocation qui a été réservée à la République démocratique du Congo est une allocation importante. C'est 1,5 milliard, comparé donc au poids de notre zone, c'est important. Alors, aujourd'hui, ces montants qui vont être convertis vont aller aux États. Donc, c'est les États qui vont effectivement gérer, dans le cadre de leur budget, donc, fixer leurs priorités. De ce point de vue-là, la Banque Ouest-Africaine de Développement n'a singulièrement rien à dire. Voilà. En revanche, ce qui est plus intéressant, c'est de travailler sur des mécanismes plus innovants de réallocation de DTS ou d'extra DTS, comme on le dit un petit peu maintenant, afin de renforcer les fonds propres des banques de développement et singulièrement de la Banque Ouest-Africaine de Développement.
C'est le projet du FMI, d'ailleurs.
Absolument, c'est ça l'idée. C'est une des idées qui est sur la table. Les mécanismes sont encore en cours de définition. Mais c'est un mécanisme qui consisterait donc à renforcer les fonds propres des banques de développement, et singulièrement de la Banque Ouest-Africaine de Développement. Ces fonds propres nous permettraient, par un mécanisme technique qui s'appelle l'effet de levier, d'aller pouvoir lever de la dette sur les marchés. Et ça renvoie au propos que je tenais incidemment, qui consistait à dire que nous pensons que la vérité est dans le prix.
Et nous savons quels sont les investisseurs dans le monde. Nous savons ce qu'ils attendent des émetteurs.
Emprunter le moins cher possible.
Alors, pour ce qui nous concerne et pour ce qui concerne notre zone, c'est effectivement emprunter le moins cher possible avec des durées ou des durations les plus longues possibles, en tout état de cause, celles qui soient compatibles avec un projet de développement. Il est difficile de se développer sur des secteurs qui sont des secteurs de base. Encore une fois, ici, il n'y a rien de grandiloquent. Voyez-vous, l'Afrique telle que le Premier ministre Patrick Achille l'a définie, et dans laquelle, encore une fois, je me reconnais complètement, nous devons régler nos sujets d'infrastructure, nous devons régler nos sujets de télécommunication, nous devons régler nos sujets de transport, d'aviation, nous devons régler nos sujets d'énergie, de production d'énergie, d'accès à une énergie équitable pour toutes les populations. Trois, nous devons régler nos sujets d'agriculture et de sécurité alimentaire. Quatre, nous devons régler nos sujets d'immobilier, singulièrement d'habitat social. Mon préopinant disait tout à l'heure, il a tout à fait raison, parce que vous avez l'âge médian de nos populations, dans notre zone, c'est 20 ans. 20 ans, donc on est tous autour de la table, des vieux et des grands et des papis.
Pas hein, si ça, vieux, mais...
Oui, non, non,
merci,
mais,
monsieur Ekoué,
disons les choses telles qu'elles sont. Les doyens, c'est 20 ans l'âge médian. 20 ans l'âge médian avec une population qui double tous les 20 ans. Ce qui veut donc dire que cette forte croissance de la population, ça peut être la meilleure comme la pire des choses. La meilleure des choses, parce que vous voyez bien l'énergie, le dynamisme, la volonté, cette envie d'entreprendre qui est très forte. En Afrique, contrairement à ce que l'on dit, mais l'Afrique est une terre d'entrepreneurs. L'Afrique n'est pas une terre d'assistés, c'est une terre d'entrepreneurs. Dernier point, si vous le permettez, Bruno, c'est la question de la santé et de l'éducation. C'est tout le capital humain. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller lever de la dette sur les marchés, parce que nous aurons renforcé nos fonds propres, aller lever de la dette qui sera ensuite appliquée à faire en sorte que dans le bilan, certes, nous avons un passif qui est renforcé, mais ensuite, nous allons travailler à la qualité de l'actif, à la qualité des projets, à impact. Sur les emplois, sur l'inclusivité, sur le chômage, sur le nombre de routes, le nombre de kilomètres, sur la décarbonisation, etc. Je pourrais en parler des heures.
On va justement donner la parole à un entrepreneur togolais, Thierry Aouesso. Comment est-ce qu'on voit, de votre point de vue, effectivement, cette question de l'endettement nécessaire hein, de l'Afrique, parce qu'il y a des besoins. Monsieur Ekoué en a parlé dans la vie quotidienne hein, de vos concitoyens, mais aussi de vos adhérents, des entrepreneurs togolais.
Bien entendu, Bruno. Le problème du financement, justement, des entreprises est, je le disais tout à l'heure, la pierre d'angle de notre développement. Pourquoi ? De façon très simple, quand on prend la production de l'huile, par exemple, vous avez de l'huile qui va revenir de Malaisie, où ils ont sur place des infrastructures spécifiques à l'industrie, à l'agriculture, qui vont permettre aux opérateurs économiques dans ce domaine d'activité de pouvoir lever des fonds. Quand ils ne sont pas tout simplement des allocations, des subventions apportées par l'État, ils lèvent des fonds à des taux totalement bonifiés. Ils peuvent lever des fonds à 1%. Dans nos pays, vous allez vous tourner vers des banques commerciales qui vont vous accompagner dans un parcours du combattant extrêmement difficile pour à la fin et finir autour de 8%. Donc, vous partez déjà un gap qui va vous rattraper lors de la compétition justement de vos produits sur des marchés qui sont aujourd'hui des marchés suffisamment ouverts. Vous savez que nous sommes en train de construire actuellement la zone de libre-échange du continent africain, la ZLECAF, et donc qui va transcender complètement les marchés régionaux de la CEDEAO et également de l'Afrique centrale, et pour ouvrir complètement nos frontières à la circulation, à la libre circulation des produits. Et les niveaux de développement entre les différents pays, quand vous prenez les pays du Maghreb ou l'Afrique du Sud, et les pays justement de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas les mêmes. Et pourtant, il faudra compétir sur les mêmes zones. Donc, il faut sérieusement travailler justement sur la mise en place d'un certain nombre de mécanismes qui vont permettre aux pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment, que nous connaissons mieux, de pouvoir lever des fonds dans des conditions normales. Qu'est-ce qui fait qu'une banque commerciale hésite à aller, par exemple, sur un projet agricole? Je prends les domaines dans lesquels nous sommes dans la transformation des produits oléagineux. Et les banques hésitent. Et le Togo a trouvé un mécanisme extraordinaire qu'on appelle le MIFA, qui est un mécanisme d'incitation au financement de l'agriculture, qui va prendre en charge les différents dossiers des producteurs agricoles, qui va les travailler et va garantir les banques en disant nous pouvons garantir à hauteur de 80%, vous pouvez y aller. Et je pense que ce genre de mécanisme, puisque nous avons énormément d'ailleurs d'outils qui accompagnent, nous avons le FNFI, nous avons la finance inclusive, nous avons le FAEJ, le PRADEB, nous avons un nombre de démembrements d'outils de ce genre qui peuvent accompagner ces éléments. Et je pense que nous devons trouver, justement avec l'arrivée de ces fonds de tirage spéciaux, la possibilité de mettre des fonds de garantie qui vont accompagner l'ensemble des projets dans les autres secteurs d'activité, qu'ils soient énergétiques, qu'ils soient pour l'ensemble des... Il ne faut pas oublier également, ça c'est un point très important, l'énergie toute seule, dans le coût de production justement des différentes unités industrielles, représente à peu près 35% du coût de production. Ça impacte forcément la compétitivité. Nous l'avons dit tout à l'heure, il faudra davantage de l'énergie, non seulement de façon efficace, de façon quantitative, mais cette énergie doit avoir un prix. Un prix qui soit compétitif comme dans les autres zones de développement.
Eh bien, l'énergie, c'est votre métier, Abdulaziz Fall. Cette question de la sécurisation de l'emprunt, c'est valable pour des entreprises petites, moyennes, c'est aussi valable pour des grosses entreprises telles que la vôtre, telles qu'une compagnie d'électricité nationale?
Mais absolument. Et d'ailleurs, à ce niveau, je crois que c'est le lieu et le moment de féliciter et de remercier la BOAD pour cet accompagnement extrêmement important dans les projets d'envergure de Senelec. Je crois que le président ici présent peut en témoigner. Alors, je vais rebondir sur les derniers propos de Thierry Oyaweso, en mettant l'accent sur l'importance de l'énergie dans toute perspective de développement, mais surtout pour le continent africain qui, comme vous le savez, est confronté à un nombre extraordinaire de défis. Et si on veut se développer, comme il l'a dit, il va falloir qu'on sécurise l'énergie en termes de ravitaillement, mais aussi en termes de qualité et de prix. C'est ce qui a motivé toute la stratégie que le Sénégal, à travers la Senelec, est en train de développer, parce que on a deux objectifs principaux. Le premier objectif, évidemment, c'est d'assurer ce qu'on appelle l'accès universel à l'électricité. On a un horizon temporel extrêmement court, c'est en 2025. Mais ce faisant, il va également falloir qu'on assure deux autres éléments. Le premier, c'est qu'il faut que les prix soient abordables, parce que sans quoi on n'a aucune chance de pouvoir légitimement arriver à cette émergence derrière laquelle on court.
Et dernier point. Vous tombez bien, vous allez revenir sur votre dernier point dans quelques secondes, Abdulaziz Fall, parce que je voudrais qu'on écoute sur cette question de l'énergie et du prix de l'énergie. Je voudrais que l'on écoute le commissaire de la CDAO qui est en charge de l'énergie et des mines. Il s'agit de Sédiko Douka, puisque la CDAO a lancé il y a 2 ans un plan d'électrification de sa zone pour améliorer la production, mais aussi pour que les réseaux soient interconnectés, c'est-à-dire qu'ils soient reliés les uns aux autres.
Nous avons 9 pays qui sont interconnectés. Les 5 autres le seront au plus tard le premier semestre 2022 avec l'achèvement de 2 projets majeurs entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Et de l'autre côté, donc, qui consiste à interconnecter le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée. Donc, quand ces projets seront terminés, toute l'Afrique de l'Ouest est interconnectée.
Donc, si je comprends bien, en 2022, quand les réseaux seront interconnectés, un Sénégalais pourra acheter de l'électricité au Bénin, un Nigérian pourra acheter de l'hydroénergie en Guinée, par exemple.
C'est ça l'idée, parce qu'aujourd'hui, le taux d'échange entre les pays, malgré tout, n'est que de 9% seulement. Le taux de l'énergie qui est aujourd'hui utilisée, c'est 9% seulement qui concerne les échanges inter-États. Et nous voulons vraiment agrandir ces échanges et avec comme corollaire la réduction des tarifs. Parce que dès qu'il y a une compétition, le kilowatt-heure, donc le tarif, va baisser. C'est ça notre objectif.
Voilà, donc le commissaire de la CDAO en charge de l'énergie et des mines, Sédiko Douka, elle est là, la clé, Abdulaziz Fall, partager l'électricité pour qu'elle soit moins chère pour tout le monde?
Oui, je crois que c'est quasiment logique et c'est une réalité que nous avons bien compris et qui a été intégré dans notre approche stratégique. Car dans le plan stratégique de Senelec, qui est prévu dans les 5 prochaines années, un aspect important, c'est la préparation de la pénétration, si vous voulez, du marché sous-régional à travers le mécanisme d'interconnexion, qui va d'ailleurs jouer 2 rôles. Un premier rôle, c'est du point de vue de la loi du marché, parce que quand il y a de la concurrence, évidemment, les prix ont tendance à baisser. Mais ça permet aussi de pouvoir envisager mais de plus gros investissements, car on se dira toujours qu'il y a une possibilité de pouvoir distribuer la quantité supplémentaire, par exemple, de production. Mais autre chose également. Pour le cas du Sénégal, il y a un élément technologique également qu'il faudra prendre en compte. C'est lequel ? C'est que nous avons fait un investissement massif au niveau des énergies propres, les énergies renouvelables. Et tout le monde sait que les énergies renouvelables ont ceci de caractéristique qu'elles sont une énergie intermittente. Et que parfois, il va falloir faire des balances. Parfois, on peut avoir une production qui est beaucoup plus supérieure que le besoin de consommation ponctuelle. Il va falloir souvent, on a souvent des problèmes pour en disposer. Maintenant, avec des interconnexions, on peut faire des transferts et apporter de l'argent, et ça nous permettra aussi de réduire les coûts d'investissement. Je crois que tout ceci pris en compte justifie, mais absolument et pleinement, la nécessité de s'ouvrir au niveau sous-régional, d'autant plus que le potentiel il est énorme, aussi bien en termes d'hydrologie, comme il a évoqué tout à l'heure, mais également le solaire et la biomasse, sans pour autant parler des autres ressources, notamment pétrolières et gazières, qu'on a connues au Sénégal.
Olivier Roger.
Serge Ekoué, est-ce que l'Afrique aujourd'hui est prête à recevoir des investissements industriels massifs ? Y a-t-il suffisamment d'énergie ? Y a-t-il suffisamment de routes ? Et sinon, le chemin est-il encore long à parcourir ?
Le chemin est long. Les estimations que nous avons, c'est un gap d'à peu près 295-300 milliards de dollars, voilà, d'investissement nécessaire. Ceci est énorme. S'agissant notamment de la question climatique, également, pour être aux normes, parce qu'aujourd'hui, tous nos investissements, tous nos projets sont passés au filtre de ces sujets de protection de nos environnements. C'est 100 milliards à peu près. Donc, les montants sont massifs. Alors, il faudrait que nous soyons aussi en capacité de pouvoir exécuter. Je vais vous donner l'exemple des routes. Vous regardez le plan du président Biden. Il parle d'une quinzaine de milliers de kilomètres. Alors, il n'y a pas que de la nouvelle création, il y a de la rénovation. Le plan stratégique de la BOAD, le plan Joliba, 2021-2025, c'est près de 13 000 kilomètres de routes à construire, pas à rénover. Alors, il y a ce que les Anglais appellent le « nice to have ». Nous, ce n'est pas un « nice to have », c'est un « must have », c'est une nécessité. Alors, je ne vais pas parler anglais dans la francophonie, mais enfin, bon.
On est une radio internationale.
Bon, très bien, ça me va. Vous voyez, donc, c'est simplement pour montrer la dimension de nos besoins comparée à ce qu'un grand pays comme les États-Unis, la première puissance au monde, est en train de faire et va exécuter. Voilà notre enjeu. Vous prenez le cas des télécoms. Je regardais aujourd'hui, vous regardez sur tous vos téléphones, on est en 5G. Alors, tous les téléphones n'ont pas la capacité d'eux, mais la société se prépare à recevoir de la 5G. Il y a quelques années, on parlait de la 3G, encore quelques mois, on parlait de la 4G. Donc, vous voyez que l'intensité capitalistique que nous devons investir dans les secteurs des télécoms, qui sont les secteurs essentiels en Afrique, parce qu'ils nous permettent de combler les gaps technologiques. Ils nous permettent de combler les gaps de développement. Ça nous permet d'aller plus vite. On va plus vite aujourd'hui par la technologie, on va plus vite par les télécoms. Mais comment pouvons-nous investir en étant dans le secteur des télécoms, où on sait que l'intensité capitalistique est complètement différente de celle de l'agriculture, de celle de l'immobilier, etc. La BOAD a vocation à se préparer à ce type d'approche sectorielle. Et c'est le maître mot est lâché, le secteur. Nous avons vocation à être des experts dans notre secteur. Je suis très heureux de parler à côté d'un expert du secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie a été, dans notre plan stratégique, identifié comme un secteur à part. On aurait pu l'intégrer dans le secteur des infrastructures. J'ai pris la décision de le voir autrement. Je considère qu'il ne peut y avoir de développement sans énergie. C'est une tautologie de lire, mais nous l'avons reconnu dans notre plan stratégique et dans notre organisation aujourd'hui, le secteur de l'énergie fait l'objet d'une approche spécifique.
Télécom, énergie, obligation climatique. Quelle relance économique en Afrique ? On continue d'en parler avec nos invités dans le studio de RFI, délocalisé à l'hippodrome de Longchamp, près de Paris, où se tenait cette semaine la rencontre des entrepreneurs francophones. Autour de moi, Serge Ekwe, président de la Banque Ouest-Africaine de Développement, Thierry Aouesso, numéro 2 du patronat togolais, Abdulaziz Fall, conseiller spécial du directeur général de la Senelec, la compagnie sénégalaise d'électricité. Une question, Thierry Aouesso, comment attirer des investisseurs chez vous, en Afrique, et pas seulement les Chinois? Ça vous fait rire.
Il n'y a pas que les Chinois qui viennent sur notre zone. Je voudrais rebondir juste avant de répondre à votre question sur la question de l'énergie. C'est un sujet central. Vous savez, les États ont compris qu'il faut vraiment composer avec le secteur privé. Le secteur privé connaît ses problèmes et il a, je pense, dans la majorité des cas, des solutions totalement concrètes. Vous prenez le cas d'une industrie un peu comme la nôtre, Nyoto. Nous avons investi dans une chaudière à combustible solide dans laquelle, effectivement, nous brûlons nos déchets. Donc, c'est de la biomasse. Donc, tout ce qui concerne la campagne coton, par exemple, nous utilisons les coques de coton que nous brûlons dedans. Nous transformons la vapeur en énergie à travers un turbo alternateur que nous avons installé au sein de notre unité. Et il en est de même pour la campagne karité avec les farines de karité. Il faudrait tout simplement que nous poursuivons un peu dans la majorité de nos pays l'élan qui est donné par exemple au Togo pour permettre aux privés de pouvoir générer de l'énergie. Ce surplus d'énergie peut être remis sur le secteur et revendu à d'autres opérateurs ou d'autres consommateurs. Il en est de même pour la nécessité de mettre en place des unités de production d'énergie. Aujourd'hui, nous avons la centrale Kekeli qui est venue renforcer la centrale de contrôle global. Nous avons l'unité de centrale solaire qui vient d'être inaugurée d'ailleurs par le chef de l'État à Blita, donc qui va générer également 65 mégawatts. Pareil pour Kekeli, autour de 60 mégawatts, 100 mégawatts pour contrôle global. Et le Togo qui était à l'époque très très dépendant de l'énergie qui venait du Nigeria, qui venait du Ghana et qui venait de Côte d'Ivoire dans des conditions totalement alternatives. Le Togo aujourd'hui est en capacité de pouvoir poursuivre son développement sans trop attendre. On revient sur la question de coût. Parce que quand on règle le problème de disponibilité et d'efficacité de l'énergie, parce que une unité industrielle comme la nôtre, une rupture d'énergie pendant 20 minutes nous bloque complètement et c'est des mâches fer qui se forment autour justement de nos presses. Et pour les débloquer, il nous faut facilement 6 heures de temps. Il faut attendre déjà que tout se dilate avant de recommencer et de reprendre. Donc c'est des coûts de compétitivité extrêmement important sur, au final, les produits que nous allons remettre à la disposition de nos différents partenaires. C'est pour ça que cette question reste vraiment une question centrale. Il faut continuer, dans le cadre du partenariat public et privé, et la recherche de solutions. Je crois qu'on va trouver des formules.
De belles idées de reportage pour les journalistes de RFI. L'Afrique, la Chine et le reste du monde.
Voilà. Donc, en ce qui concerne les investissements massifs, aujourd'hui, nous l'avons encore écouté en écoutant le Premier ministre de Côte d'Ivoire. L'Afrique est le continent dans lequel, effectivement, il y a l'avenir, il y a la convoitise. Nous sommes totalement ouverts, effectivement, à ces investissements directs étrangers. Mais, je l'ai dit, dès l'entrée de jeu de cette émission, il va falloir que nous soyons toujours très prudents. Prudents, pourquoi ? Il ne faudrait pas que nous devenions des spectateurs de notre propre développement. Nous connaissons nos problèmes. Et c'est pour ça que la BOAD qui, jusqu'à présent, appuie énormément les efforts de développement en Afrique, doit continuer par y aller et s'occuper davantage des PME et des PMI qui, pour la plupart, concentrent l'essentiel, effectivement, des activités. Je vous ai parlé du secteur agricole. Les producteurs agricoles, ils sont sur 2, 3, 4 hectares pour les meilleurs. Et ils sont nombreux et malheureusement présentés de façon très diverse. Mais c'est eux la main d'œuvre. Vous savez que plus de 60% de notre population active est dans le secteur rural. Vous savez également que plus de 40% de notre PIB est effectivement généré par ce secteur agricole. Mais curieusement, moins de 1% dans la majorité de nos États d'appui bancaire. il y a quand même quelque chose qui flotte, il faut régler ce problème. D'où le mécanisme dont je parlais, qui soit un fonds effectivement de garantie, qui vienne accompagner l'ensemble des producteurs agricoles et qu'on sorte justement de ce développement à la DABA ou aux petites mécaniques et qu'on aille vraiment vers de plus grandes surfaces avec des outils, des équipements capables de nous permettre d'améliorer l'intensification de la production agricole parce que la compétitivité commence là-bas et on doit pouvoir produire beaucoup plus sur les mêmes mêmes superficies.
Il y avait un appel du pied là au président de la BOAD, Olivier Roger. Hein.
Président Ekoué, est-ce que la BOAD investit suffisamment auprès des PME et des PMU? Est-ce que c'est votre rôle, tout d'abord? Et deuxièmement, est-ce que vous en faites assez pour développer ce tissu industriel qui crée de la richesse et de l'emploi?
Je suis souvent sollicité, interpellé sur ces questions. Et j'essaye, comme je vais le faire maintenant, chez vous, ici, sur ce plateau de RFI, d'être le plus pédagogue possible. Il serait tellement facile pour moi de vous dire « mais oui, mais bien sûr, on va le faire ». Mais vous le dites vous-même dans votre question, ce n'est pas notre vocation, que chacun fasse son travail. Alors, nous n'avons pas vocation, la BOAD n'a pas vocation à être la 15e banque de Côte d'Ivoire. Elle n'a pas vocation à être la 5e, la 6e, la 7e, la 8e ou la 10e banque au Togo, ou la 7e, la 8e, la je n'en sais rien. Au Bénin, etc. Ce n'est pas notre vocation. Si nous étions amenés à faire cela, nous nous mettrions en compétition avec les banques commerciales, dont c'est le rôle. Nous travaillons sur le principe dit de subsidiarité. Alors, c'est un mot complexe qui veut simplement dire que ce que les banques commerciales ne font pas, nous avons, nous, vocation à le faire. D'abord par le ticket d'entrée. 4 milliards de francs CFA pour être traité.
Vous prenez les risques qu'elles ne prennent pas.
Voilà, c'est ça. Nous avons vocation à prendre des risques qu'elles ne prennent pas. Nous avons vocation à travailler avec les banques en partage de risques. C'est ça notre vocation, voyez-vous. Alors, 4 milliards, c'est un ticket élevé pour une PME. C'est un ticket élevé pour une petite, pour une très petite et moyenne entreprise. C'est des tickets élevés. Donc, nous n'avons pas vocation à faire ça. Par ailleurs, j'emploie toujours aussi un mot qui peut être un peu compliqué, nous n'avons pas la bande passante pour pouvoir traiter ça. Le sujet d'un crédit qui oblige le prêteur comme le client, c'est de gérer un seul sujet. C'est le sujet des événements dits de crédit. Il y a défaut, il n'y a pas défaut. Sur une petite et moyenne entreprise, la BOAD ne sait pas faire. Ce n'est pas son métier. En revanche, ce que la BOAD est et ce qu'elle fait, c'est qu'elle soutient le système bancaire. Donc ça, c'est le cadre général.
Ensuite, et vous contribuez à faire baisser les taux d'intérêt dans votre
zone. Je vais y arriver. Ensuite, le sujet le plus important, c'est, une fois que l'on a présenté ce cadre général, c'est qu'est-ce que la BOAD fait. Quand on a parlé, comme nous venons de le faire, d'énergie, on a parlé d'infrastructure, vous êtes des patrons d'entreprise. Mais quel meilleur soutien la BOAD puisse vous apporter si ce n'est pas de faire en sorte que vous ayez de l'énergie. Si la BOAD venait à vous apporter un soutien, mais vous l'avez décrit vous-même, monsieur Aouesso, si la BOAD venait à vous apporter son soutien directement, mais n'était pas capable de faire en sorte que l'énergie fût disponible, quel est l'intérêt? Aucun. Si le chef d'entreprise de notre zone veut quitter Dakar pour aller à Abidjan, prendre l'avion et est incapable de le faire dans de bonnes conditions, quel est l'intérêt? C'est ça la mission de la BOAD. Donc, que chacun fasse son travail. Et je vous assure, les vaches seront bien gardées. Avant-dernier point, je vais quand même rajouter deux points. Excusez-moi. Non, mais je vais être très pédagogue sur ces sujets.
On comprend bien. On est limité dans le temps, mais allez-y.
Mais je ne veux pas raser gratis. Alors, la BOAD va intervenir également, et c'est ça, vous voyez, la finance a ceci de génial, c'est que l'innovation est illimitée. Le problème des PME que vous mentionnez, c'est un problème de fonds propres. Vous l'appelez comme vous voulez, c'est un problème de fonds propres, c'est un problème de sous-capitalisation. On a techniquement la possibilité, c'est ce que nous faisons. Alors, je ne peux pas aller plus loin dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Il y a des sujets que je ne peux pas déflorer encore parce qu'ils ne sont pas encore complètement ficelés. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'en qualité de président de la BOAD, nous travaillons sur un sujet, sur une structure qui va permettre de tenir compte de ce constat de sous-capitalisation massive de nos entreprises.
Ah, nous avons un scoop ?
Quasiment. De sous-capitalisation massive. Donc nous y travaillons, nous viendrons avec des solutions. Parce que nous devons à la fois travailler, je vous l'ai dit tout à l'heure, au passif, la façon avec laquelle nous allons lever de la dette la moins chère possible et faire en sorte que notre portefeuille ait la duration la plus longue possible, mais nous devons également travailler à la qualité de l'actif, puisque nous allons expliquer à nos investisseurs qui, eux, ont besoin d'investir et surtout de fléchage. On doit leur dire où on investit et comment est-ce que l'on rend compte.
La transparence, d'où la confiance.
D'où la confiance, absolument. Le dernier point, vous l'évoquiez, c'est la question des taux. Notre dernière émission, Tata Samba, 750 millions d'euros, nous avons payé un coupon de 2,75%. Nous réduisons de 75% 12 ans. Nous avons réduit les frais financiers de la BOAD de 50%. Ce n'est pas rien. Hein. Nous avons renversé la table. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent, il y a un intérêt des investisseurs, il y a un intérêt sur le papier BOAD. C'est ce que nous avons vocation à continuer. Travailler le passif du bilan, travailler la qualité de l'actif du bilan en tenant compte du contexte qui est le nôtre. Nous sommes une banque de développement, nous travaillons sur le long terme, mais nous sommes également, nous ne sommes ni aveugles, ni myopes, ni sourds. Nous connaissons les difficultés du monde de l'entreprise. Je me définis moi-même comme un entrepreneur dans l'institution, comme un entrepreneur dans l'entreprise. Donc le monde de l'entreprise, on le connaît. Le monde de l'entreprise, on va le soutenir, mais on va le soutenir à notre place.
Abdulaziz Fall, sous-capitalisation des entreprises, je viens d'entendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il faut aller chercher l'argent, où qu'il soit dans le monde ?
Oui, je crois qu'il faut aller chercher l'argent, mais il faut également se présenter de telle sorte que les gens qui ont de l'argent viennent vous trouver là où vous êtes. Et je crois que c'est cette démarche-là que Sénélec, en tout cas pour ce qui me concerne, a adoptée. En quoi faisant ? En s'assurant qu'il y a une certaine forme de viabilité financière parce que nous avons de bons comptes et que nous travaillons de manière transparente et que nous sommes extrêmement efficaces et surtout conscients des projets sur lesquels nous nous engageons par rapport à leur pertinence et aussi à leur durabilité, à leur pertinence à tout point de vue. Je crois que c'est très important. Et la question qui a été posée à un moment donné, c'est comment attirer les investissements en Afrique ? Vous avez fait un tableau très très clair, très très convaincant de la part du président. Au Sénégal, je crois que ceci également est un enjeu de taille. C'est ce qui a expliqué, si vous voulez, les réformes de fond que le secteur de l'énergie est en train de connaître. Bon là, ça va peut-être faire un petit peu mal aux Français, vous comprendrez pourquoi je le dis. Parce que ceci s'est fait sous l'impulsion, en tout cas considérable, du MCA. MCA, c'est un programme américain qui veut soutenir la refondation, si vous voulez, la réorganisation du secteur électrique pour le rendre plus performant et plus attractif, parce que sans quoi les investissements ne pourront pas se faire. Comme il l'a dit, vous savez, les coûts énergétiques sont d'une importance capitale. C'est un goulot d'étranglement pour notre capacité d'être compétitif. Et tant que ce problème n'est pas résolu, vous aurez les plus belles intentions du monde. Vous serez toujours dans l'incantation. Et par contre, si vous avez les conditions énergétiques les plus optimales, ça permet d'abord de prendre des risques, mais également de pouvoir promouvoir l'investissement. Il y a aussi un autre élément, je crois, qui n'est pas aussi non plus des moindres. C'est-à-dire aussi pour attirer les investisseurs étrangers, il faut également que l'environnement s'y prête en termes de sécurité démocratique, le fait de pouvoir respecter la règle de loi. Et ça, il y a eu des progrès importants qui se sont passés en Afrique, un peu partout. Au Sénégal, je crois que la question ne se pose plus, en tout cas se pose à des termes beaucoup plus moindres. Mais là, je voudrais interpeller, je dirais pas son Excellence, le Président, parce qu'il y a un élément qui m'a toujours perturbé dans l'appréciation de l'extérieur vers l'Afrique lorsqu'il s'agit notamment des investissements. Il nous parle d'un problème récurrent, c'est-à-dire le risque. À chaque fois, ils vous disent « Ah non, il va falloir qu'on mitige d'abord les risques avant d'investir en Afrique. Les risques sont grands, sont énormes, sont multidimensionnels. » Mais je vous dis une chose. Si vous ne voulez pas prendre de risques, ne venez pas en Afrique. Et d'ailleurs, pour moi, quelqu'un qui doit investir, c'est quelqu'un qui doit être prêt à prendre des risques. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne lecture des risques, tout en aussi intégrant dans l'analyse ce qu'on peut gagner une fois qu'on a bien investi en Afrique. Et dernière chose, c'est que, imaginez-vous un instant, un mois ou une semaine dans le monde, que les gens ne viennent pas en Afrique ou ne se soucient pas de l'Afrique. Vous allez voir si le monde va bouger, il va plus respirer. Mmh.
L'entrepreneur et le banquier sur la question des risques. Olivier Roger.
J'avais une question justement à vous poser dans cette ligne-là. Qu'est-ce que vous attendez des investisseurs étrangers ? On sait que les Chinois n'investissent pas ou ne travaillent pas de la même façon que les Français. Les Français travaillent différemment des Américains. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'ils créent un partenariat, qu'ils créent de la valeur ajoutée, qu'ils créent de l'emploi ? Quelle est la chose la plus importante, hormis l'investissement en tant que tel, que les investisseurs doivent développer ? Est-ce une relation spéciale ?
Qu'ils comprennent d'abord. Parce qu'en réalité, il faut d'abord communiquer. Et pour moi, ce qui est important dans la communication, comme disait un de mes professeurs à l'époque où j'étais étudiant, c'est de se concentrer sur son radical, c'est-à-dire d'avoir quelque chose en commun. Parce que la communication, c'est presque une sublimation de la mémoire. C'est-à-dire se rappeler, c'est des choses qu'on a fait, qu'on peut faire ensemble, et on met l'accent là-dessus. Mais si, par exemple...
Donc on ne vient pas en Afrique pour faire un coup économique, pour construire un stade ou une route.
Mais ça, vous pouvez le faire. Mais ce qui va rester, c'est juste un stade. Un stade en tant que tel, ça ne vaut rien. Mais un stade, tout ce que ça peut représenter, tout ce que ça peut offrir comme promesse, du point de vue économique, du point de vue humain, du point de vue culturel, c'est ça qui est important. Et ça, pour y arriver, il va falloir développer un certain référentiel qui ne vient pas ex nihilo. C'est pour ça que la communication, elle est importante. Donc pour moi, les investisseurs, ce qu'ils doivent faire d'abord et avant tout, ce n'est pas de venir, mais c'est de nous comprendre. Et pour nous comprendre, il faut nous écouter, il faut communiquer avec nous. Parce que, en réalité, le problème auquel nous faisons face, ce n'est pas d'ordre technique, il n'est pas d'ordre financier non plus. C'est d'ordre beaucoup plus essentiel. Et c'est ça d'ailleurs pour la raison pour laquelle on n'y est pas encore arrivé.
Ce sera les mots de votre conclusion, Abdulaziz Fall. Quelques mots rapides, s'il vous plaît, Thierry Aouesso.
Très bien, merci Bruno. Je parlerai de nos valeurs. Nos valeurs, c'est les performances et l'efficacité. Il l'a dit tout à l'heure, nous savons faire. Nous avons tout simplement besoin de compétir dans un environnement qui soit réellement compétitif. Qu'on ne vienne pas nous donner des coûts qui sont parfois invisibles, mais qui nous compliquent complètement notre existence. À partir du moment où nous avons la capacité aujourd'hui de relever les défis que nous avons identifiés, qui sont les nôtres, nous sommes capables de compétir à l'extérieur, dans tous les sens du terme. Je prends le cas du beurre de karité. Aujourd'hui, nous faisons à Agnoto, nous sommes partis de 10 000 tonnes il y a quelques années, à 40 000 tonnes d'amandes triturées. Les amandes, nous les trouvons donc dans nos pays. La technicité et l'efficacité pour maintenir nos équipements, nous savons le faire. C'est vrai que nous avons besoin d'importer des équipements pour améliorer complètement l'outil de production. Et si nous avons vraiment besoin de quelque chose, c'est des investissements pour justement nous booster, pour produire plus, améliorer les performances effectivement de nos indicateurs de performance en ce qui concerne ce que nous pouvons produire par jour, et le reste je crois que nous pouvons jouer dans la cour des grands, parce que la cour des grands se passe chez nous. Et je voudrais que à travers cette émission on arrête un peu cet afro-pessimisme. Et quand je dis le monde de demain se dessine en Afrique, c'est parce que le potentiel y est, que ce soit l'alpha ou l'oméga, c'est en Afrique que ça va se passer, parce que le marché est là-bas. Merci.
Très rapide conclusion, Serge Ekwe. Tout est possible en Afrique, avec une Afrique vaccinée, des hommes et des femmes en bonne santé.
Absolument. Le potentiel est énorme, tout le monde le sait. Nous travaillons aujourd'hui à faire en sorte que le développement de base, le développement à la base, soit réglé en une génération. À partir du moment où ces problèmes sont réglés en une génération, nous pensons que le reste viendra de surcroît. Les questions qui sont les nôtres aujourd'hui en tant que président de la BOAD sont des questions techniques. Nous avons une approche du secteur. Nous voulons faire de la BOAD une maison d'experts. Et c'est comme ça que nous nous positionnons. Je pense que voici quelques-uns des ingrédients qui seront nécessaires pour faire en sorte que notre mission soit parfaitement remplie en accord et en complément de toute la mission qui nous a été assignée par nos statuts et par la conférence des chefs d'État.
Avec une responsabilité collective. Merci. Merci à tous les trois. Serge Ekwe, Thierry Aouesso, Abdulaziz Fall, bon vent à l'économie africaine. Merci à Olivier Roger qui m'a beaucoup aidé à préparer cette émission. Merci à Bertrand Eclair pour sa réalisation et pour l'installation de ce beau studio à l'hippodrome de Longchamp. Cadre magnifique, vous pouvez voir des photos et des vidéos sur RFI.fr, sur la page de l'émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs, que vous pourrez podcaster, partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission cette fois dans nos locaux. À Issy-les-Moulineaux, quelques surprises, quelques nouveautés, mais toujours la même volonté de démonter sans agressivité les rouages de l'économie mondiale. Restez bien avec nous sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.